Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Ça fera bientôt 100 fois que le navire fait le trajet. Le capitaine le connaît comme le fond de sa poche. Mais il sait bien qu'il faut toujours être aux aguets, car c'est sans le demander que la mer emporte. C'est en après-midi que sont largués les amarres, en ce jeudi 28 de mai 1914. Et tandis que les gens s'envoient leurs au revoir, un navire s'éloigne des quais pour son grand départ. Et on sent passager 400 membres d'équipage quittent le port de Québec, direction Liverpool. C'est sur le Saint-Laurent que s'entame leur voyage à bord de l'Empress of Ireland. Paquebot sur son chemin, la journée se termine. Les passagers se mettent à l'aise dans leur cabine. Plusieurs partent en famille et vont rejoindre des proches. Et pour acheter le billet, ils ont vidé leur poche. La traversée de l'Atlantique devrait prendre 4 jours. Et même que par beau temps, on fait parfois plus court. Mais rendu à hauteur du fort de Pointe-au-Père, il y a un mur de brouillard qui cache tous les repères. Et on sent passager 400 membres d'équipage quittent le port de Québec, direction Liverpool. C'est sur le Saint-Laurent que s'entame leur voyage à bord de l'Empress of Ireland. Capitaine, à tribord, un navire fonce sur nous, mais il est déjà trop tard pour éviter le coup. La proue d'un charbonnier vient harponner l'Empress, et dès qu'il s'en dégage, l'eau s'infiltre dans la brèche. Les issues sont bloquées par une marée humaine, et l'espoir s'atténue quand les lumières s'éteignent. Un officier tente d'envoyer un SOS. Le navire commence à tomber à la renverse. La moitié des chaloupes de sauvetage submergées. Les survivants doivent nager dans une eau glacée. Et à peine un quart d'heure après la collision, la ferraille de l'Empress gît déjà dans les fonds. Pour 1000 passagers ou membres de l'équipage, tout s'est passé trop vite pour s'échapper de l'épave. C'est sous le Saint-Laurent que se termine leur voyage à bord de l'Empress of Ireland.
Alexandre Morin-Chassé, l'Empress of Ireland, merci à toi beaucoup. C'est grâce à toi que j'ai pu savoir qu'il y avait un navire aussi qui s'appelait l'Empress of Ireland qui a aussi coulé. Voilà, comme le Titanic. Il y a plus de 11 000 passagers à bord aussi. Hein. C'était cette époque-là d'ailleurs. Alexandre Morin-Chassé, je ne sais pas, il a fait un doctorat, je ne sais quoi. Je ne pense pas qu'il continue de faire la musique. Elle a notre invité déjà, encore au bout du fil. Déjà au bout du fil, les ruches d'art, la communautaire et thérapeutique. Elle va nous parler de ça. C'est Rachel Chenet, bien sûr, qui est art-thérapeute, coordinatrice du réseau des ruches d'art à l'Université Concordia à Montréal, bien évidemment. Les gens vont se demander, mais c'est quoi les ruches d'art? C'est quoi l'art communautaire? C'est ça, c'est quoi l'art thérapeutique? Elle est mieux placée pour nous en parler. Bonjour Rachel Chenet.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais très bien, merci. Et vous?
Oui, je vais bien, je suis heureux de vous avoir.
Moi aussi, absolument, ça me fait plaisir de vous parler ce soir.
On a l'air très heureux de vous avoir et puis de parler de qu'est-ce, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'art thérapeute? L'art thérapeute, c'est quoi? Thérapeutique ou bien l'art communautaire et thérapeutique avant, de, voilà, pour, avant de, okay. d'aller aborder un peu les ruches d'art. Qu'est-ce que les ruches d'art font?
L'art thérapie, c'est une discipline en santé mentale qui utilise les arts. Ça peut être les arts visuels, mais ça peut aussi, dans le cas de la dramathérapie, être le théâtre, ou dans le cas de la musicothérapie, donc être la musique, également la danse et le mouvement. Moi, j'ai étudié en art-thérapie qui utilise les arts visuels. C'est un programme de maîtrise qui est offert à Montréal à l'Université Concordia ainsi qu'à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qui a un campus à Montréal.
Oui.
Donc, c'est une discipline qui existe au Québec depuis une quarantaine d'années. Wow. Depuis un peu plus longtemps dans d'autres parties du monde, comme les États-Unis, l'Europe, entre autres.
Oui.
Mais en même temps, qui est ancré dans des savoirs, je dirais, immémoriaux de l'humanité qui sont d'utiliser les arts, la créativité pour aller mieux, pour se guérir soi-même, pour se guérir en communauté. Présentement dans le monde, par exemple, il y a une guerre. Souvent, dans les temps de grandes difficultés comme ça, les gens vont se tourner tout naturellement
oui.
vers la musique, vers les arts, pour aller mieux, pour arriver à survivre même. Durant la pandémie, on a vu ça beaucoup aussi. Les gens ont créé, les gens ont écouté beaucoup de musique, se sont vraiment tournés vers les arts. Il y a ce lien-là qui est très intime entre le mieux-être et la créativité.
Oui.
Donc, l'art thérapeute est un professionnel qui est formé en santé mentale ainsi qu'en art pour accompagner des individus ou des groupes vers le mieux-être en utilisant les arts.
Oui.
Puis on a tout un spectre de possibilités qui va de la psychothérapie par l'art, dans l'individuel ou dans le groupe, jusqu'à ce que nous, on appelle la pratique publique de l'art-thérapie. Qu'est-ce qu'on fait dans les ruches d'art, qui est donc d'inviter les gens dans un atelier d'art communautaire où les gens sont libres de choisir les matériaux qui les interpellent,
oui.
puis de créer seuls ou avec d'autres, de façon libre, dans toutes sortes de formes de matériaux de création, que ce soit en dessin, en peinture, en couture, etc. Tout ça dans le but de créer du lien entre les gens, de s'exprimer créativement, d'apprendre à connaître ses voisins dans notre communauté
oui.
Par la créativité. Donc, on se découvre soi-même, puis on découvre l'autre tout à la fois dans un espace comme ça.
Oui.
Ces espaces-là sont ouverts de façon gratuite dans une approche d'inclusion. Donc, on veut que ce soit très accessible pour les personnes, peu importe leurs moyens financiers.
Voilà, c'est tellement bien défini. Merci, Rachel. C'est tellement bien défini. Oui, c'est très bien défini, d'ailleurs. Donc, quand je vous entends, je, sans vous connaître physiquement, personnellement, je me dis, tu es une personne qui doit aimer le social. T'as dit?
Oui, 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 absolument.
Vous êtes une oui. personne qui dit bonjour à tout le monde dans la rue?
Ben... Pas toujours.
Oui.
D'une certaine façon, oui.
Oui.
Je pense que oui, les gens souvent vont être spontanément portés à me parler puis à me dire bonjour. Donc, je pense que j'ai peut-être un visage accueillant.
Oui. Oui.
Puis c'est beaucoup ce que ça prend pour travailler dans une ruche d'art, pour être dans ce domaine-là.
C'est pourquoi j'ai posé la question. Voilà.
Il faut être tourné vers les autres, il faut avoir un accueil, une approche. Beaucoup de gens peuvent le développer. Là, c'est pas un grand secret, mais c'est sûr que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se tournent vers ce domaine-là.
Attendez, Rachel, mais vous connaissez la société dans laquelle nous vivons, hein, où les gens sont devenus individualistes. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Parce que vraiment, pour se lancer dans ce milieu, dans ce domaine, la communauté et la thérapeutique, il faut que vous soyez quelqu'un d'ouvert.
Exact.
Voilà,
ouais.
C'est pourquoi je vous ai demandé. Voilà, ça m'a merci.
Je comprends. Voilà. Oui, oui.
Voilà. Alors, les ruches d'art, qui sont nées d'ailleurs depuis 2010, hein? Oui, ça fait quand même.
Oui, exactement. La première ruche à Montréal, là, c'est en 2010.
Oui, oui.
Donc, c'est quand même récent. Oui, on est là depuis une douzaine d'années.
Ah, mais 12 seulement. Ans quand même, c'est pas deux jours, hein?
Non, exactement.
Oui.
C'est long et court à la fois.
Voilà. Mais pourquoi est-ce que vous êtes basée à l'Université Concordia?
Parce que l'idée originale des ruches, c'est le projet, c'est la vision d'une professeure du département de thérapie par les arts à Concordia, Janice Timbotta.
Oui.
Elle est arrivée des États-Unis. Elle avait développé ce modèle-là en travaillant avec une clientèle en itinérance.
Oui.
Aux États-Unis. Puis, elle a été embauchée à Concordia pour venir enseigner cette façon d'œuvrer-là dans l'art-thérapie, parce qu'avant son arrivée, c'était surtout très clinique, donc plus proche de la psychothérapie que de ce qu'on fait en ce moment avec les ruches.
Mm-hmm.
Puis, ça a amené tout ce volet-là, son arrivée ici à Montréal. Plusieurs art-thérapeutes ont pu se former à cette approche-là, puis soit ouvrir une ruche ou intégrer un aspect comme ça, très ouvert, d'atelier libre, dans un lieu déjà existant, là, comme par exemple dans des résidences pour les personnes âgées, dans des hôpitaux, il y en a dans les logements sociaux, il y en a au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Fait qu'il y en a vraiment dans toutes sortes de lieux, mais qui ont le point commun d'être des lieux publics.
Des lieux publics,
lieux où les gens se rendent habituellement sans payer pour toutes sortes de raisons.
Oui.
Puis là, c'est vraiment d'ouvrir les portes toutes grandes de ce lieu-là, mais aussi les portes de la création artistique.
Oui, puis ça doit être une salle chaleureuse pour accueillir les gens.
Oui, exactement. L'aspect chaleureux, accueillant est très, très important, autant chez la personne qui veut faciliter la ruche que dans le lieu en tant que tel. Donc, c'est un lieu qu'on va appeler ça une maison publique, d'une certaine façon, c'est un tiers-lieu.
Mm-hmm.
C'est un lieu où les gens peuvent se sentir à la maison, en dehors de la maison. Mm-hmm. Donc, c'est un lieu d'appartenance.
Oui, j'aime bien le nom, les ruches d'art. Au lieu de parler de ruches d'abeilles, on parle de ruches d'art. Alors, quand les gens vous rencontrent, ceux qui ne vous connaissent pas, et puis vous demandent qu'est-ce que, pour la dernière minute qui nous reste avant de passer à une pause musicale, avant de vous revenir, quand les gens vous demandent, quand vous dites « je suis art thérapeute et coordinatrice du réseau des ruches d'art à Concordia », comment les gens réagissent? Ils se demandent « qu'est-ce que c'est que ça? Art thérapeute, c'est quoi? »
De plus en plus, les gens savent c'est quoi l'art thérapie.
Oui.
Et de plus en plus, les gens savent c'est quoi les ruches d'art.
Oui.
Je remarque une très grande différence. Moi, je suis impliquée depuis les débuts, depuis 2010, au moment où j'ai débuté mes études dans le domaine. Puis, je remarque une très grande différence dans la reconnaissance qu'ont les gens du public en général pour l'art thérapie d'une part, puis même pour les ruches d'art. Je pense que le mot a circulé de plus en plus, grâce à des personnes comme vous, des stations de radio, de télé, des journaux qui s'intéressent à ce qu'on fait, qui nous demandent de venir en parler. Donc, j'ai de moins en moins de réactions de surprise totale ou d'incompréhension totale.
Okay. Mais au début,
j'aurais pu en avoir au début. Mais parfois, oui, je dois expliquer les ruches, c'est sûr. Puis souvent, c'est la façon très simple dont je vais l'expliquer.
Oui.
C'est un atelier d'art communautaire où les gens peuvent pratiquer la création artistique de façon libre, non dirigée. C'est ouvert à tout le monde, puis c'est gratuit. Vraiment, là, en une phrase, on va dire, c'est comme ça que je vais l'expliquer.
Mais c'est vrai, mais vous savez tellement comment banaliser. On fait une petite pause musicale et puis je vous reviens.
Parfait.
À
merci.
Tout de suite. À tout de suite.
Oui.
Mm-hmm. Don't.
Haribo boni vumbo kame na bunchi. Kungun zevin zami weko. Machondo na yengi ko babon soro bazubri meso. Mafweti yangalala. Kungun zami kwalulendo tomolotu zaba hey. Zayam vimba yifweti tambo na salu kandi. Kula tutu kidi kukufito tama kwenda. Tatama na mundu samunde.
C'est George Sanavé, la complicité de Freddy Mambas, Massamba Matondo. Notre invitée Rachel Cheney est avec nous. Elle est art-thérapeute et coordonnatrice du réseau des Ruches d'art à Concordia. Pour ceux qui nous prennent maintenant en marche pour savoir effectivement à qui j'ai affaire, qu'est-ce qu'elle nous explique, Rachel?
Oui.
Est-ce que chacun de nous peut créer sa ruche d'art?
Oui, en fait, c'est une façon pour nous de démocratiser la pratique de l'art-thérapie.
Oui.
Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs art-thérapeutes qui animent des ruches.
Oui.
Cependant, c'est ouvert à tout le monde de créer sa ruche d'art.
Oui.
La vision, c'est vraiment d'avoir un espace de création comme ça dans tous les quartiers, un peu de la même façon qu'on a,
oui.
Par exemple, des bibliothèques dans tous les quartiers.
Oui.
Donc, d'avoir un lieu où on peut se rendre qui n'est pas très loin, où on peut aller à pied ou prendre sa voiture, c'est 5 minutes,
oui.
Puis se rendre à un endroit qui est pas loin de la maison où on a accès gratuitement, un peu comme dans les bibliothèques encore, on a accès aux livres.
Oui.
Donc, dans la ruche, on a accès aux matériaux de création, mais aussi on a accès les uns aux autres. On a accès à une communauté de personnes, des gens qui ont envie de partager des savoir-faire, des gens qui ont envie de partager ce qu'ils créent, parce que tous ces gens-là qui viennent à la ruche pourraient avoir créé tout seul chez eux. Mais souvent, les gens, ça va répondre à un besoin d'être vu, d'être entendu, puis d'être lié aux autres. Donc, souvent, c'est pour ça que les gens vont choisir de venir créer dans un environnement comme ça.
Approprié, un environnement approprié.
Oui,
voilà.
Approprié, puis aussi, c'est motivant, tu sais, de se trouver avec d'autres personnes, d'avoir une conversation sur la création.
Et d'être avec des spécialistes comme vous.
Exactement.
Voilà.
Oui.
Moi,
oui.
Je...
Mais les spécialistes sont importants, mais je pense que vraiment, une personne, toute personne qui a une certaine connaissance des matériaux d'art, c'est pas obligé d'avoir un grand talent. Là. C'est pas une question de talent du tout, les riches. C'est vraiment d'être à l'aise avec différents matériaux de création, puis d'avoir cette volonté d'accueillir, d'inclure... Puis c'est sûr que ça prend le sourire, puis c'est pas donné à tout le monde, mais c'est donné à beaucoup de personnes.
C'est quand même donné à beaucoup de personnes. Oui.
On a toutes sortes, des personnes de toutes sortes de backgrounds, je m'excuse pour l'anglicisme, qui animent des ruches. Donc, on a des personnes qui viennent plus du monde de l'enseignement, donc qui viennent plus du monde de l'intervention, de l'organisation communautaire. C'est très varié. Puis c'est ça qui fait la beauté de la chose aussi, tu sais, c'est que ce sont des personnes qui contribuent toutes de façon différentes à définir ce qu'est une ruche d'or dans leur pratique quotidienne.
Oui.
Nous, on offre aux personnes qui veulent démarrer leur propre ruche des formations,
oui.
Des séances de consultation aussi qui sont gratuites. Les formations ont un prix, mais les séances de consultation sont gratuites pour les gens qui pourraient être intéressés à démarrer une ruche dans leur milieu peut-être de travail ou leur quartier ou leur milieu de vie.
Est-ce qu'il y a des collaborations entre les différentes ruches d'art à Montréal?
Souvent, souvent. Mmh. On a, pour vous donner des exemples concrets, on a notre communauté de pratique, ça c'est une rencontre qui est en ligne.
Oui.
C'est deux vendredis par mois, donc c'est aux deux semaines. Si les gens vont sur notre page Facebook, ils vont pouvoir voir les événements. Il y en a une le 4 mars. Puis ça, c'est des rencontres entre ruches pour vraiment s'entraider au niveau là, de l'animation, du financement, de toutes les différentes composantes là, d'animer, de gérer, de faire fonctionner une ruche au quotidien.
Oui.
Donc, ces rencontres-là sont ouvertes, par exemple, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui auraient envie de peut-être démarrer quelque chose comme ça puis qui veulent juste venir s'informer, prendre le pouls. Les gens sont bienvenus. Puis la prochaine rencontre, d'ailleurs, elle va être co-animée par Isabelle Fortier, qui est l'animatrice de la ruche d'or La Page Blanche à Boucherville,
oui.
sur la rive sud de Montréal. Donc, juste pour vous donner un exemple déjà de collaboration.
De collaboration que vous avez, oui.
Cette rencontre-là va porter particulièrement sur le démarrage d'une ruche.
Oui.
Donc, pour les personnes qui seraient nouvelles puis qui auraient envie de peut-être se lancer là-dedans éventuellement, qui veulent venir prendre de l'info, c'est parfait comme rencontre. Aussi, on a une exposition en cours où là, il va y avoir un vernissage à l'université le 23 mars.
Oui.
Puis les gens sont invités à faire une création qui représente leur espace de création à la maison.
Oui.
Que ça soit un atelier, que ça soit la table de cuisine pendant la pandémie, les gens se sont beaucoup retrouvés à créer à la maison plutôt qu'aller en personne à une ruche. On a fait plusieurs ruches d'art en ligne.
Wow.
Donc, les gens nous rejoignaient sur Zoom depuis leur maison. Fait que forcément, les gens ont créé dans leur divan, dans leur cuisine, dans leur chambre à coucher, on ne sait pas. Mais les gens ont utilisé leur maison comme un atelier, étant donné les circonstances. Donc, les gens sont invités à représenter, que ça soit en dessin, peinture, poème, broderie, comme les gens le souhaitent. Puis, toutes les créations sont acceptées. Donc, c'est pas une question, encore une fois, il n'y a pas de jury, on va pas décider si telle œuvre est bonne ou telle autre l'est pas. Toutes les œuvres qui vont être proposées jusqu'à un maximum de 3 par artiste, par participant, vont être acceptées puis vont être montrées. Donc, il y a des détails là-dessus sur notre page Facebook.
C'est la page Facebook.
Pour les personnes intéressées à participer. Ça, c'est juste pour vous donner des petits exemples là, de collaboration entre différentes ruches d'or.
Voilà, d'accord. Pour les 40 dernières secondes qui nous restent, quel est le message que vous lancez à ceux qui aimeraient bien aller vous rencontrer là-bas, à la base de Concordia,
Je pense qu'il y a beaucoup... l'art, il y a une barrière quand même souvent pour les gens. On s'imagine qu'il faut être bon en art, là, puis je dis ça entre guillemets, mais vraiment pas. C'est vraiment un terrain d'exploration, d'expérimentation.
Il faut préciser aussi, Rachel, permettez-moi, que c'est différent d'un coup artistique, hein?
C'est très différent parce que c'est vraiment un espace. Le but, c'est pas d'acquérir des connaissances spécifiques.
Voilà.
Le but, c'est vraiment de s'exprimer créativement, d'essayer différents matériaux, de les combiner de façon inusitée.
Faut avoir du plaisir.
Oui, avoir du plaisir en créant puis en rencontrant des gens dans la communauté.
C'est ça. Surtout ça,
Les gens peuvent aller sur notre site web qui est lesruchesd'art.org.
Oui.
Puis ils vont pouvoir trouver les ruches d'art qui sont près de chez eux, puis savoir quand est-ce que c'est ouvert également.
Wow. Merci beaucoup, Rachel Chenet.
Ça me fait vraiment plaisir.
Art thérapeute et coordonnatrice du réseau des ruches d'art.
Merci
Concordia.
Beaucoup.
Au plaisir de vous. La prochaine fois que je vais vous recevoir, je vais parler de votre groupe de solidarité avec vous.
Ah oui, absolument.
Voilà, mais elle est très engagée, elle, dans ce milieu-là.
Oui, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bonne fin de journée et à bientôt.
Au revoir à vous aussi. Merci, au revoir.
Au revoir.
Bye-bye.
Bye-bye. We'll be right back. Jazzmaster Paul Hardcastle, Free as the Wind, as the Wind. Merci à toi, Nicolas. On se retrouve demain. Et on dit merci à Louise Thibault qui avait nous parlé de... ouais. De son... cette histoire de Kini qui dort. Et qui... voilà, je sais que j'ai passé du temps avec qui dort. Dean, oui, c'est bien ça. Merci à nos fidèles auditeurs et merci à notre invité, Rachel Chenet, qui est venue nous parler, qui est art thérapeute et coordinatrice du réseau des ruches d'art à Concordia. Venue nous parler de la ruche d'art, des ruches d'art. Et merci à nos fidèles auditeurs et auditrices. Et on se retrouve demain à la même heure sur les ondes de, sur les ondes de Canal M. Et je vous dis ciao. Bienvenue à Scal 17 du à Fulgence Blanc au micro et Nicolas Svartman à la technique. Voilà, c'est parti pour le lundi, comme ça on démarre. On va démarrer l'émission comme toujours tous les lundis ou avec la chroniqueuse de nutrition Louise Thibault qui va nous parler de quoi ? Qui dort Dean ? Oui, ça va, ça s'agit de quoi ? De ce que l'on perd à ne pas dormir et de ce que l'on gagne à dormir. Voilà, ok, et puis en deuxième partie d'émission, je vais recevoir... Rachel Chenet, qui est art-thérapeute, cofondatrice et co-directeur d'une coupe d'ailleurs. Et puis, elle va nous parler de la ruche d'art, et l'art communautaire et thérapeutique. Ah ouais, comment est-ce qu'elle aimerait bien qu'on la présente ? Art-thérapeute et coordonnatrice du réseau des ruches d'art, qui est à l'université Concordia à Montréal, bien sûr. On va aller tout de suite... en musique, on va démarrer en musique avec qui ? Lee Ritenour, Twist of Wit. Thank you. Lee Ritenour, Twist of Rit. Voilà, Kidder Dean. Oui. Louise Thibault. Oui, elle va nous parler de ce que l'on perd à ne pas dormir et de ce que l'on gagne à dormir. Voilà. Kidder Dean, c'est une vieille expression. Hein. Elle va nous expliquer. Chacun peut interpréter comme il veut. On dit, celui
on va en parler.
Bonjour, Louise Thibault.
Bonjour, Fulgence Blas. Comment vas-tu?
Je vais bien, merci, Louise. Merci à toi.
As-tu bien dormi la nuit dernière?
Oui, j'ai bien dîné, j'ai bien dormi.
Alors, oui, j'ai choisi la locution qui dordine.
Oui.
Parce que, en mars, qui commence demain, on va changer d'heure et sur c'est terrible partout qu'on va perdre une heure de sommeil.
Oui.
Donc, est-ce que c'est grave? Ça dépend de vous, ça dépend de vos habitudes de sommeil.
Oui, ça dépend de l'organisme de chacun de nous aussi.
C'est ça, oui. Et en fait, ma chronique, elle est inspirée de mes livres, évidemment, mais aussi de livres qui viennent paraître chez POL Gallimard, qui s'intitule « Pas dormir ».
Bon.
Et c'est un livre de l'autrice prolifique qui s'appelle Marie Darieusecq. Et cette romancière française se raconte beaucoup dans ce livre et ça parle d'insomnie, évidemment, pas dormir. Et selon elle, l'insomnie, c'est un grand phénomène collectif.
J'aimerais bien qu'elle nous parle d'hypersomnie. Hein?
Elle en parle un peu. Et puis, dès que j'aurai reçu ma copie papier du livre, je vous en reparlerai
Merci
plus
bien.
Amplement.
Merci, Louise.
Donc, Marie Darieusecq nous parle de ce qu'on perd quand on perd le sommeil, mais moi, je veux vous parler de ce que l'on gagne à dormir.
Oui.
Donc, parce que nous avons un mode de vie diurne hein, plutôt que nocturne.
Oui.
Certains animaux, par exemple, les rats, les souris, les chauves-souris, ont un mode de vie nocturne.
Oui.
Mais nous, dans l'espèce humaine, on est naturellement adapté à faire notre routine quotidienne le jour et à nous reposer la nuit.
Oui.
Bon. Mais c'est
à moins, Louise, à moins qu'il y ait des gens qui s'infligent une nuit nocturne.
Ah oui, il y a des oiseaux nuits.
Oui, je parle
de... Il y a certaines personnes qui ont un mode de vie quasi nocturne.
C'est ça.
Par choix ou par obligation.
Oui, des professionnels qui ne travaillent que la nuit.
Ça. En France, on appelle ça le travail posté. Ici, on appelle ça le travail sur les shifts. Hein, c'est un anglicisme.
C'est ça.
Donc, on peut devoir travailler tard en soirée, même durant la nuit.
Oui.
Mais il y a des gens qui choisissent de vivre plutôt la nuit que le jour. On les appelle les oiseaux de nuit.
Les oiseaux de nuit,
oui. Oui, c'est ça. Mais c'est un phénomène qui n'est pas sans conséquence. Parce que quand on décide de vivre plutôt la nuit, ça crée un décalage entre notre rythme, le rythme de nos activités et le rythme du fonctionnement du corps. Parce que sachez que nous avons des rythmes endogènes bien ancrés dans notre corps, dans nos cellules, dans nos gènes. Et quand on crée un décalage, soit en décidant d'être un oiseau de nuit ou soit parce qu'on ne dort pas bien, qu'on ne dort pas suffisamment, ça pourrait, entre autres, se traduire par un gain de poids. Alors, les scientifiques ont étudié l'effet des nuits écourtées et puis ils ont trouvé que ça pourrait contribuer à un surplus de poids.
Ah bon?
Ouais.
Alors, ceux qui nous écoutent...
Mais parlons d'abord de la locution qui dordine.
Oui.
On peut l'interpréter de plusieurs façons, cette locution-là. On peut penser que le sommeil fait oublier la faim.
Oui.
Oui. On peut penser aussi que le sommeil tient lieu de nourriture.
Oui.
Oui. Et les Britanniques, ils ont une expression comme « He who sleeps forgets his hunger
».
Qui dort oublie sa faim.
Mais l'origine, Louise, au fait, on dit dans l'Antiquité, c'était beaucoup plus quand les gens se louaient une chambre. Avant d'avoir droit à une chambre dans une auberge, il fallait que tu dînes. Ou bien quand tu viens dîner, ou bien quand tu viens louer une chambre, il faut que tu dînes pour pouvoir avoir accès. Ou bien quand tu es à la chambre, il faut que tu dînes forcément.
Alors, on croit aussi que cette expression,
oui.
forcément, peut venir d'une pratique moyenâgeuse,
oui.
devrais-je vous le dire, qui n'est pas très honnête, qui consistait à refuser le gîte aux voyageurs qui ne désiraient pas dîner.
C'est ça. En gros, c'est ce que je voulais dire, à ma manière, quoi. C'est ce que je disais.
Non, voilà. Oui, j'ai très bien compris. Vous avez tout à fait raison. Donc, la règle dans ces auberges, ben, c'était qui dort dîne.
Oui. Ouais.
On se demandait si vous ne vouliez pas dormir, ben vous ne pouviez pas manger là.
C'est ça.
Ben oui. Mais sachez que bien avant, à l'époque des Grecs, Ménandre a écrit « Le sommeil nourrit celui qui n'a pas de quoi manger ».
Oui.
Rebond. Et puis l'expression « la nuit porte conseil », ça vous dit quelque chose?
Oui.
Ben, ça vient de ce même grec-là.
Ah.
Donc, ben, dormir, ben, ça peut avoir plusieurs fonctions. Ça nous peut nous nourrir. Enfin, d'une certaine façon, ça peut nous faire oublier la faim. Ça peut nous porter conseil.
Oui.
Mais il y a aussi une expression miroir qui dit « qui dîne dort ».
Qui dîne dort.
Oui, qui dîne dort au lieu de qui dort dîne. Et ça a du sens parce que quand on mange, on sollicite notre fonction digestive qui, elle, sollicite beaucoup d'énergie.
Oui.
Et qui pourrait favoriser l'endormissement. Alors, certains d'entre vous qui nous écoutons, vous pouvez peut-être penser que votre petite envie de dormir après un repas, c'est pas juste un caprice, ça peut aussi être dû à l'énergie que votre corps, dont votre corps a besoin pour digérer et qui peut vous endormir.
Oui, parce qu'il est en train de dépenser de l'énergie.
Hein. Ben, c'est ça, oui, oui, oui.
Ah, c'est...
Alors, vous pouvez dormir soit sur votre canapé ou dans votre lit.
J'en fais partie, je suis le canapé, là.
Oui, mais le lit, c'est le lieu où habituellement nos activités journalières débutent et se terminent.
Oui.
Hein? Bon. Alors, il faut aussi savoir que le lit pourrait peser lourd dans la balance quand on parle du poids. Donc, si on veut garder la ligne, il faut penser sommeil, il faut penser bon dodo.
Oui.
Et les experts en matière de surpoids et d'obésité, ils s'entendent de dire que il faut ni dormir trop ou ni dormir trop peu. Alors, je vais vous illustrer ça en vous parlant d'une étude québécoise dont je connais les auteurs. Les auteurs sont de l'Université Laval. Ils ont publié une étude il y a quelques années dans une revue scientifique qui s'appelle Sleep. Rien de moins. Alors, Sleep, c'est sommeil ou dormir. Alors, dans cette revue-là, qui est quand même très reconnu, on retrouve une étude québécoise qui a montré que quand on évalue le sommeil et en même temps quand on évalue le poids, le tour de taille, le pourcentage de gras, l'énergie, les calories qu'on consomme, les calories qu'on dépense, on peut trouver des choses fort intéressantes. Par exemple, dans cette étude, on a demandé aux gens combien d'heures dormez-vous par nuit? Alors, ils ont eu toutes sortes de réponses. Il y a des sujets qui ont avoué ne dormir que 4 heures par nuit, alors que d'autres ont dit qu'ils dormaient 12 heures.
12 heures, ça, c'est de l'hypersomnie, là.
Tout, hein. Mais malgré ça, les chercheurs ont réussi à diviser les personnes en groupes de petits, de moyens et de gros dormeurs.
Oui.
Alors, les petits dormeurs, dans cette étude, ils dormaient en moyenne 5 à 6 heures par nuit.
Oui.
Les moyens dormeurs, de 7 à 8 heures. Et les gros dormeurs, c'était les gens qui dormaient de 9 à 10 heures par nuit. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des tests statistiques pour tenter de comprendre ou de trouver si les petits moyens dormeurs, ils avaient des apports caloriques différents, ils avaient un tour de taille différent, un pourcentage de gras différent, des poids différents. Et ce qu'on a trouvé, c'est que les petits dormeurs, ils avaient un risque d'être en surpoids d'environ 5 kilos qui était 35% plus élevé que les dormeurs moyens. Alors, autrement dit, les petits dormeurs risquaient d'être en surpoids par rapport aux dormeurs moyens, et ça de 35%.
Oui.
Dormeurs, eux aussi, ils avaient un risque d'être en surpoids un peu moins élevé, cette fois-ci de 25% que les dormeurs moyens.
Donc, il faut être les dormeurs moyens, quoi, normal. Et le standard, c'est quoi? Il faut 7-8 heures par nuit, non?
C'est la majorité des gens.
Oui. 7-8 heures.
Dorment environ 7-8 heures par nuit. Oui. Mais là, je vous parle de la durée du sommeil. Je ne vous parle pas nécessairement de la qualité du sommeil.
Là, c'est autre chose. Voilà.
Oui, c'est ça, parce qu'on peut avoir un sommeil fragmenté. On peut se réveiller 1, 2, 3, 4 fois par nuit. Et ça, ça affecte la qualité du sommeil. Mais dans cette étude, on a tout simplement regardé la quantité d'heures qui était dormie pendant chez ces sujets-là. Donc, la morale de cette histoire, c'est que si vous vous questionnez sur un surplus de poids que vous avez peut-être, vous voulez peut-être perdre quelques kilos, eh bien, c'est peut-être vos heures de sommeil que vous devriez compter plutôt que vos calories.
Oui, parce qu'on a beau bien, si je comprends bien, on a beau bien manger bio, si on est un petit dormeur, ça vaut pas la peine, quoi.
Eh bien, c'est possible que votre léger surplus de poids, si vous en avez un, ou votre surplus de poids plus important, eh bien, ce soit relié à votre hygiène de sommeil.
Oui.
Nombre d'heures. Et ça s'explique de plusieurs façons. Et comme je n'ai qu'un temps limité pour vous parler aujourd'hui de tout ça, bien, je vous en reparlerai dans une prochaine chronique.
Super.
Qu'il y a derrière ça?
Oui, parce que là, vraiment, cette histoire de sommeil ouvert, bon, OK. Moi, je vais pas au lit et puis je reste là personnellement jusqu'au matin. Non, mais je me réveille aussi. J'ai des sommeils entrecoupés, comme on dit. Mais ça ne veut pas dire que je suis éveillé et puis je ne peux plus dormir. Non, ça m'est pas encore arrivé. Voilà, personnellement. Bon, ceux qui nous écoutent. Mais je pense bien que chacun de nous, bon, les hypersomniaques et puis les somniaques.
Oui, les hyposomniaques,
les hyposomniaques et puis les insomniaques, ils doivent trouver un compromis là, ensemble là, pour se retrouver au truc, à la chose standard qui est 7 à 8 heures de sommeil par nuit.
Ben oui, il faut essayer. En revanche, je peux vous dire que certaines personnes, un petit pourcentage de la population, n'a pas besoin de 8 heures de sommeil pour que le sommeil soit réparateur.
Mais oui.
Tout petit pourcentage de la population.
Oui, d'accord.
Alors, vous qui nous écoutez, essayez de penser à ça, d'analyser un peu vos nuits de sommeil, le nombre d'heures que vous dormez, et puis voyez si vous ne pourriez pas faire un petit quelque chose pour améliorer tout ça.
Pour améliorer tout ça. Merci beaucoup, Louise.
Je t'en prie.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite.
En mars, le mois de la nutrition.
Le mois de la nutrition, waouh!
Waouh! Alors là, je continue de vous en parler de la nutrition et je vais vous parler de livres coup de cœur pour ce mois de la nutrition.
Voilà, là, tu vas nous mettre plein les oreilles encore. Là.
J'espère bien.
Merci beaucoup, Louise.
Bonne fin de journée.
Merci à toi aussi.
Et à la prochaine.
À la prochaine. Au revoir.
Subindo crianças, balanceie, yeah, balanceie.
Sarah Tavares, balancée. Voilà, alors, tennis, un peu de tennis avant de continuer, avant de passer à la prochaine pause musicale rapidement. Il y a l'Espagnol Rafael Nadal qui est quatrième mondial parce que depuis ce matin, le tableau a changé. Hein, classement ATP homme. Voilà, Daniil Medvedev, le russe, il est en tête maintenant, suivi de Novak Djokovic. Voilà, alors, troisième place, c'est qui? C'est l'Allemand Alexander Zverev. Et quatrième place, Nadal. Et oh, il y a le jeune grec, hein, Stefanos. Tsitsipas qui est cinquième. Sixième, c'est Andrei Rublev, un autre russe. Matteo Berrettini, quand on a un Berrettini là, on n'a pas bien de le présenter non plus, c'est un italien. Ça, c'est... c'est pas un grec ou bien un français qui va. Non, si, il y a des français qui peuvent s'appeler Berrettini. On ne sait jamais, il y a des français d'origine italienne. Voilà, Matteo Berrettini. Et puis il y a Casper Ruud, huitième. Félix Auger-Aliassime, neuvième parmi les dix premiers. Hein. De toute façon, c'est. Voilà, dixième, c'est qui ça? Hubert Hurkacz. Et puis, onzième, Jannik Sinner. Et puis, douzième, Cameron Norris, qui a été battu par Nadal le samedi. C'était le samedi, oui, à Acapulco pour ce tournoi. Nadal vient de sa quinzième victoire d'affilée sur le circuit. Et treizième position, c'est notre Denis Shapovalov national. Voilà, tout de suite. On me fait signe que j'ai trop parlé. On va tout de suite en musique pour terminer. Je vais revenir là-dessus d'ailleurs, sur cette histoire de la carrière de Nadal à 35 ans. Voilà, il a été complètement, il a été invaincu depuis, c'est sa 15e victoire sans défaite, hein, d'affilée de circuit. Il a débarré très bien l'année 2022. Hein. Et pourtant, on sait qu'il a arrêté un bon moment, presque 6 mois ou même plus, avant de revenir au tennis sur les cours de tennis. En musique, on termine avec « J'ai la lune, je ne me souviens plus ».
Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Non, je ne me souviens plus. C'était quand la dernière fois que je t'ai vu? Je ne sais plus, je ne sais plus. Je ne veux pas savoir ce qui se passe dans ta tête. Non, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Autant de temps.
la lune, je me souviens plus. Restez à l'écoute. Après la petite publicité, je vais recevoir Rachel Chenet, qui va nous, qui est art thérapeute et coordonnatrice du réseau des ruches d'art basé à l'université Concordia. Après la petite pause publicitaire et la première plage musicale, c'est elle qu'on aura pour nous parler de la communauté et thérapeutique.